France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Visage qui sourit, qui pleure, qui fait un clin d'œil, cœur, parapluie, soleil, chaton. Les émojis menacent-ils la langue française ? Les émojis, ces petites représentations graphiques utilisées pour exprimer une émotion, figurer un personnage, un animal ou une action. Tous les jours, nous envoyons des milliards d'émojis par SMS, sur les réseaux sociaux, par mail. Les émojis constituent-ils un langage à part entière, à l'image des hiéroglyphes ? Comment expliquer ce besoin d'ajouter des émojis à nos conversations numériques? Qui décide des émojis présents sur nos smartphones? Bonjour David Groison.
Bonjour.
Vous êtes le directeur éditorial de Bayard Graphique. Bonjour Paul Ray.
Bonjour.
Vous êtes illustrateur, dessinateur et scénariste et vous publiez ensemble la BD La Révolution Emoji, très réussie, passionnante. Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Agrégée d'anglais, maîtresse de conférences en linguistique à Sorbonne Université. Vous avez notamment publié Le Langage de l'Amour. L'émoji le plus célèbre, David Groison, c'est peut-être l'émoji du visage qui sourit, le célèbre smiley jaune.
Oui, c'est le smiley, mais c'est les émojis les plus utilisés, effectivement, c'est celui-là, c'est l'émoji mort de rire avec les larmes qui sortent des yeux, c'est les cœurs, c'est le pouce en l'air, et donc on voit qu'au fond, c'est effectivement les émotions.
En fait, on parle d'atténuateur, c'est-à-dire que très souvent, les émojis servent à adoucir ces messages qui sont trop courts pour et qui peuvent donc paraître brutaux, etc. Donc, ça sert à adoucir vraiment nos conversations, et on en parlera plus, mais avec toutes sortes de strates d'affectivité plus ou moins littérales, plus ou moins directes, premier degré ou second degré.
Les émojis sont nés au Japon à la fin des années 1990, Paul Ray, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
On doit les émojis tels qu'on les connaît à Shigetaka Kurita. Il a inventé 176 émojis et s'est inspiré des mangas pour symboliser les expressions, Paul Ray.
Oui, tout à fait. En fait, il y a énormément de rapports entre les codes de dessin qui ont été travaillés dans les émojis. D'ailleurs, il n'était pas du tout graphiste, lui. Donc, c'est évident qu'il se soit inspiré de choses qui l'entouraient, puisqu'il était informaticien. Enfin, et là. Donc, d'ailleurs, il en a raté. Hein. Il le dit lui-même qu'il y en a dans les 176 premiers. Maintenant qu'il y en a raté certains qui ne sont pas compréhensibles. Et donc, il y a eu des codes de dessin repris du manga, comme les larmes, la fameuse petite goutte pour exprimer la gêne, qui est quand même vraiment très... voilà. On met aussi des petits nuages devant les narines, en bande dessinée au Japon, pour exprimer...
La colère.
La colère ou le mécontentement...
Alors, Julie Neveu, les émojis connaissent un succès incroyable à travers le monde. Il s'agit d'un langage universel que tout le monde comprend, de New York à Tokyo, de Villefranche de Rouergue à Tombouctou. Le linguiste Pierre Alté, spécialiste, grand spécialiste des émojis, affirme qu'il est inexact de parler de langage universel. Expliquez-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, la réponse est non et non. D'abord, c'est pas un langage et ensuite, c'est pas universel.
Et donc, pourquoi c'est pas un langage ?
Pourquoi c'est pas un langage ? Parce qu'en fait, on peut pas communiquer seulement avec des émojis. C'est-à-dire, on voit que la majorité, enfin l'immense majorité des emplois des émojis sont donc des fonctions expressives ou ponctuantes, c'est-à-dire pour séparer des énoncés. Ils se rajoutent à la fin d'un énoncé. Vous dites « je t'aime », vous allez sans doute dire « je t'aime cœur »,« merci », avec les petites mains jointes. Mais il est plus rare d'avoir une phrase complexe, etc. On ne peut pas exprimer des pensées abstraites et des choses comme ça. Donc en fait, c'est assez réduit. C'est un nouvel outil dans un nouveau type de communication qui est une communication multimodale. Multimodale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart de nos conversations sont en fait écrites. Elles sont et elles utilisent à la fois l'image. Elles peuvent utiliser le son si c'est des vidéos. Et puis, elles ont le texte, bien sûr. Mais donc, les émojis sont vraiment à cette interface. C'est pour ça que les BDistes s'y connaissent bien, quoi. Ils savent jouer entre les deux. Et donc, en gros, et pourquoi c'est pas universel ? Parce qu'il y a des variations à toutes les échelles. Et ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que vous pouvez voir qu'un seul, le même émoji ne voudra pas dire la même chose partout. Peut-être à part le cœur, bien sûr.
C'est-à-dire que nous n'avons pas la même façon d'interpréter un même émoji à Tokyo ou à Tombouctou.
C'est une sorte d'illusion parce que comme c'est une image, on se dit, c'est peut-être lu pareil par tout le monde. Mais en fait, une image, c'est encore un code, et donc il y a une interprétation qui varie à toutes les échelles, c'est-à-dire que à l'échelle sociale, à l'échelle générationnelle, c'est-à-dire que même moi, on m'envoie mon petit frère de 20 ans m'envoie un emoji avec une tête de mort, je me dis ah là là, zut, ça va pas bien, non en fait c'était pour dire mort de rire. C'est-à-dire qu'à chaque échelle, il y a des variations.
Aux États-Unis, quand on a passé une bonne soirée, les étudiants américains, ils envoient une chèvre.
Ah oui.
Parce que du coup, chèvre, c'est goat. Mm. Et goat, c'est greatest of all time pour dire j'ai vraiment passé la meilleure soirée de ma vie. Mm. Et donc, tout ce jeu-là, à la fois d'acronymes, de symboliques, etc., et d'un petit code de reconnaissance, là, d'un coup, on enrichit la langue parce qu'on est dans quelque chose de créatif.
Et c'est vrai que les émojis permettent de donner du corps au message. Hein. Ça permet de lever une ambiguïté, de donner de la chaleur à un énoncé qui pourrait paraître glacial. Si, Julie Neveu, je vous invite à une fête et que vous me répondez oui par SMS, ouais, c'est un peu froid.
Vous allez très mal le prendre.
Exactement. Si vous agrémentez ce oui d'un visage qui sourit, ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. Accompagné d'un cœur, c'est beaucoup mieux. Ça permet d'ajouter une palette de nuances à la langue.
Oui, en fait, ça fait un moment qu'on a compris que même les lettres étaient des supports visuels sur ces communications numériques. Et donc, c'est ce que vous disiez avec les émoticônes, mais aussi, par exemple, on allonge les i. Moi, je fais beaucoup de merci avec plusieurs
ça,
i.
Ah oui,
ça oui. Vous avez remarqué. Donc, en fait, on a tous des façons d'être plus intenses, de montrer notre intensité, de transmettre un peu de sentiment quoi, dans nos caractères écrits.
Alors, Paul Rey, David Groison, qui décide des émojis ? Parlez-nous de ce mystérieux consortium Unicode.
Alors ça, c'est une des découvertes de notre enquête, effectivement, c'est qu'il y a un consortium avec les plus grands acteurs du numérique, Google, Apple, etc., qui siègent et qui décident chaque année de quels nouveaux émojis on va pouvoir agrémenter notre dictionnaire. Mais en fait, on est aujourd'hui à plus de 4000 émojis. C'est vrai qu'il y a une explosion d'émojis.
Qui a décidé, par exemple, de l'homme trans en sang ? Qui décide de cet émoji ?
Alors, tout le monde peut proposer, c'est-à-dire tout le monde autour de la table, tous nos auditeurs peuvent proposer des émojis. En l'occurrence, là, c'est Jennifer Daniel, une tech de chez Google, qui l'a proposé. Et eux décident, effectivement, à discrétion. C'est dans le secret des délibérations. Il y a plein de critères très, très, très larges, et notamment aussi l'idée que chaque émoji puisse avoir plusieurs sens. Mmh. C'est-à-dire que dès le début, ils se sont dit, en fait, il y a plein d'émojis qu'on n'utilise pas parce que effectivement, ils vont avoir un usage un peu unique. Et donc, cette polysémie des images, elle est importante.
Vous avez rencontré une activiste, Flori Hutchinson, qui vit à Palo Alto, en Californie. Et elle se bat pour des émojis inclusifs, plus inclusifs. Racontez-nous le combat de cette activiste.
Elle s'est rendue compte, vers 2015, qu'effectivement, il y avait les émojis. Elle regardait les émojis qui représentaient les femmes. Et du coup, il y avait la robe de mariée, la princesse, la danseuse de flamenco et puis les deux petites danseuses avec les oreilles de lapin, Playboy. Ce qui est un peu court comme représentation de la femme. On en conviendra tous. Et du coup, elle s'est dit, non, mais c'est pas possible. Et donc, elle est passée un peu en cheval de Troie, d'abord par les chaussures, parce qu'il n'y avait que les talons aiguilles, en disant, il faut plein d'autres chaussures. Les maillots de bain, en disant, il n'y avait que le bikini. Elle dit, moi, je veux aussi le maillot, une pièce, etc. Et elle a ouvert, au fond, à la diversité des émojis. C'est-à-dire qu'ensuite, on a eu une diversité de couleurs de peau, de représentation des familles, etc. Et ça a été un moment effectivement charnière dans l'histoire des émojis, parce que dans ce consortium, quand je vous dis qu'effectivement c'est les grands de la tech, c'est aussi plutôt des ingénieurs, plutôt des informaticiens, plutôt des hommes blancs d'une soixantaine d'années. Donc d'un coup, il y a eu à ce moment-là une bascule.